à voix nue. Cette semaine, de lundi à vendredi, Julie Gacon rencontre Isabelle Autissier. Ce soir, soudain, seule. Bonsoir Isabelle Autissier.
Bonsoir.
Nous évoquions hier vos premières sorties en bateau à l'âge de 6 ans sur le Vaurien, le dériveur familial, puis vos premières années comme scientifique et ces longues nuits pendant lesquelles vous construisez votre premier bateau, Parole, avec lequel vous traverserez l'Atlantique une première fois en 1986. Vous vous lancez ensuite dans la course Mini Transat, Bock Challenge. Alors on part avec vous, c'est le jour du départ, vous avez embarqué et la côte au loin s'éloigne.
Alors le jour du départ est un jour pas facile, en tout cas dans la première partie. Parce que voilà, on l'a désiré ce départ, on l'a organisé, on a travaillé comme une folle pour que ça se fasse. Donc on a investi énormément de soi-même. Et puis voilà, ça y est, c'est là. C'est un peu une délivrance et quand même beaucoup une inquiétude, une angoisse. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que, d'abord, le fameux, est-ce que je n'ai rien oublié? Est-ce que je suis bien préparée? Mais aussi une forme d'angoisse un petit peu plus globale. Je crois que quand on fait ce genre de choses, encore plus peut-être quand on part en solitaire, il faut être à la hauteur de ses rêves. Voilà, c'est ça l'histoire. Est-ce que je ne me suis pas trompée de rêve? Est-ce que c'est vraiment ça mon histoire? C'est ça que je suis capable de faire? Je l'ai voulu, je l'ai rêvé, d'accord, mais maintenant, voilà, maintenant il va falloir faire. Et le moment du départ est le moment où tout ça, évidemment, vous revient, j'allais dire, en pleine figure. D'autant plus que non seulement on porte son rêve à soi, mais on porte celui des autres. Et qu'il y a la famille, les amis, les spectateurs, les gens partout, les sponsors, qui vous regardent et qui attendent que vous réalisiez des grandes choses, que vous les fassiez rêver, que vous fassiez un tas de choses extraordinaires.
Et que vous rentriez.
Et que vous rentriez, évidemment. Donc, quelque part, c'est une pression supplémentaire. Oui, parce que quand j'ai traversé l'Atlantique sur Parole, donc le bateau que je m'étais construit, je pars un beau soir toute seule des Antilles. Je dis même pas à personne que je pars traverser l'Atlantique. Ma famille pense que je suis encore en équipage, puisqu'avant j'avais des amis avec moi. Je leur ai pas dit que je partais toute seule. Donc, j'ai rien. J'ai juste mon histoire à moi à porter. C'est un petit peu plus facile que les gens qui vous applaudissent quand vous descendez sur le ponton et que vous leur dites « Mais attendez, applaudissez pas tout de suite. Attendez de voir ce qui va se passer. » Et puis, dans vous-même, vous vous dites « Bah, voilà, maintenant, faut y aller, quoi. » Donc, c'est à la fois très bien, parce qu'encore une fois, avant, il y a des semaines, des mois, parfois des années de boulot où on n'a rêvé que de ça. Et puis, bon, on y est. Les tout premiers moments de la course sont aussi assez détestables parce qu'on n'a qu'une peur, c'est de la collision. C'est d'un spectateur mal placé, c'est d'un autre concurrent qui est un peu stressé comme vous et qui manœuvre mal. Surtout qu'évidemment, au début, on est en meute en quelque sorte. Hein, on part tous sur la même ligne de départ. Donc tout ça est un peu stressant. Et puis, petit à petit, au bout d'un moment, au bout de 2 heures, 3 heures, les bateaux accompagnateurs commencent à faire demi-tour, les hélicoptères aussi, et les concurrents commencent à s'étaler un petit peu plus sur le plan d'eau. Et là, ça y est, on commence à rentrer dans son histoire. La première nuit, on dort pas en général parce que, d'abord, on est hyper excité. Ensuite, on est très près de la côte, donc il y a encore beaucoup de dangers potentiels, des bateaux de pêche, voilà. Et puis au fond, moi je trouve que la première nuit, j'ai pas envie de dormir. Je suis dans cette excitation du départ, j'ai envie de savourer ça. Je dirais la première et la dernière, j'ai pas envie de dormir parce que je savoure ce moment. Voilà, j'entre en mer, j'arrive et j'accède à mon rêve et je veux le savourer.
Vous entrez en mer, quand est-ce que vous entrez en solitude ?
À la fois très en amont et... En fait, j'entre en solitude à partir du moment où moi, je décide de faire ce projet, d'aller naviguer toute seule. Même si je suis très entourée, que j'ai une équipe technique, que j'ai des tas de gens autour de moi, etc. Il n'empêche que le projet a une dimension solitaire. Je fabrique un bateau pour moi, à ma mesure, avec la longueur de mes jambes, etc. Je mets dans ce bateau ce que je veux. Ce que je rêve, je fais face aux choses qui me paraissent difficiles en essayant d'inventer des techniques. Enfin bon, donc c'est déjà une discipline extrêmement solitaire et je demande quelque part à tout le monde d'être au service de ce rêve que je porte. Maintenant, évidemment, les gens sont là, sont autour de moi. Et après, je pense que le sentiment de solitude, il s'installe pas tout de suite. Il y a encore des fils invisibles qui vous rattachent quelque part. Tant qu'on se souvient de l'odeur de la terre, tant qu'on est encore comme ça attaché par des choses, je pourrais pas vraiment donner le moment, mais il faut quelques jours. C'est pour ça que j'aime pas les courses courtes, d'ailleurs, que je suis pas une régatière et que j'ai besoin de rentrer en mer. Et ça vient au bout de quelques jours, quand ça y est, on a pris ses marques, on a bien rangé le bateau comme on voulait. Il y a des petites choses comme ça pratiques, mais il y a aussi de ce sentiment de sentir que c'est normal de sortir de la cabine et de voir que de l'eau et du ciel autour. Et que c'est ça la vie, normale. Et quand on a ce sentiment-là, quand on ressent ça, bah ça y est, on est dans son espèce de cocon en quelque sorte.
Quand peut-être le bouquet de fleurs a fané, puisque vous écrivez que les premiers jours, vous avez dans votre cabine un bouquet de fleurs pour vous rappeler qu'il y a une terre avec des hommes dessus qui font pousser des fleurs.
Oui, ça c'est ma petite coquetterie peut-être un peu féminine, c'est comme les boucles d'oreilles. Oui, j'ai toujours aimé, traditionnellement, parce que je suis une fille peut-être, on m'offrait des fleurs. Et donc les fleurs, je les attachais sur le balcon arrière du bateau parce que je voulais partager les fleurs avec le bateau. Et c'est vrai que ça a un côté un petit peu symbolique. Les fleurs, évidemment, vont faner au bout de quelques jours. Et au fond, c'est ça, c'est la transition, quoi. C'est le moment où les fleurs, symbole de la terre, ben après, je vais les mettre à l'eau. Et voilà, et c'est le moment où la terre s'oublie.
Et vous les partagez avec votre bateau. Est-ce que vous parlez à votre bateau?
Ah, bien sûr. Pas tout de suite. Il faut quand même un petit moment de solitude avant de se mettre à parler à voix haute. Je pense que c'est assez naturel. Donc je parle au bateau, mais je parle aussi bien au vent et aux nuages et aux vagues et à moi-même et à la tasse de café qui s'est renversée parce que je l'ai mal posée, je l'ai pas bien calée. Donc tout ça fait mon petit univers au fond que je construis. Je crois que l'être humain est quand même éminemment social et sociable et que j'ai besoin de ça. Donc j'ai besoin de me créer mes personnages. Vous savez, comme les enfants, quand ils jouent tout seuls, ils s'inventent des alter ego, hein. Ils ont leurs copains secrets. Ben voilà, moi, je joue un petit peu à ça en bateau et je crois que c'est important. Encore une fois, bien sûr, on n'en est pas dupe. Mais ça crée un environnement, ça crée un entourage. Le fait de parler au vent, ça peut me soulager éventuellement si j'ai envie de m'énerver, mais ça veut dire que je rapprocherai ça pas mal de tous les peuples qui étaient je pense aux Amérindiens, mais à d'autres peuples qui se sentaient partie prenante de la nature et donc étant partie prenante de la nature, ils pouvaient dialoguer avec les plantes et les animaux parce que ils faisaient partie de ce monde. Et je crois que c'est un peu ça au fond que je cherche en mer. Quand je parle au vent ou quand je parle au bateau, c'est parce que je suis inclusive dans ce milieu. Ça y est, je suis rentrée dedans. Je suis en mer. Donc, je peux très bien parler au vent puisque le vent est là aussi comme moi et on est ensemble et donc on peut se parler, il n'y a pas de problème. Je crois que ça participe un peu de ça, d'une certaine forme d'animisme qui n'est pas religieuse, bien sûr. Je n'attends pas quelque chose, des éléments ou de... Il y a mon côté rationnel qui me dit que c'est H2O et puis que les vagues, c'est la poussée du vent et que tout ça se calcule. Mais voilà, je crois que j'ai besoin, ça fait partie d'une façon de me sentir dedans.
Votre seule ressource est votre cerveau à ce moment-là.
Oui, mais c'est puissant le cerveau humain. D'autant plus d'ailleurs qu'on n'est pas en train de lutter contre. Très souvent, on me dit vous vous êtes battu contre la mer. On dit sûrement pas, pas question parce que là, je suis sûre de perdre. Moi, je me bats avec. Je me bats grâce à parce que le vent m'est favorable. Je vais pouvoir aller vite ou aller dans la bonne direction. Maintenant, c'est à moi de trouver le vent favorable. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc moi, je sais où je vais et c'est à moi de trouver les vents favorables. Ça, c'est une question de cerveau. Ça, c'est parce que j'ai travaillé avant. Parce qu'effectivement, il y a les lois de la physique à la surface de la planète, qui sont quand même relativement précises, qui font que je sais que dans les anticyclones, il n'y a pas de vent, que dans les dépressions, il y en a plus, que le vent tourne comme ci, comme ça, et que je vais donc trouver mon chemin. Et j'aime bien ce sentiment de ne pas être en train de m'imposer à cette nature qui me porte, mais de juste être en train de trouver mon chemin. et d'utiliser mon esprit, mon cerveau, mes connaissances, mon expérience, pour trouver le meilleur chemin possible dans ce qui m'est proposé par la nature. Je pense que si on faisait ça à terre, on irait mieux, globalement. On aurait un petit peu moins de problèmes. Et il y a une chose que j'aime beaucoup pour rester un peu dans cet ordre d'idées, c'est que quand je me retourne derrière, le sillage se referme. Et que à 200 ou 300 mètres du bateau, personne ne sait que je suis passée. Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces. Et moi, je continue mon chemin. Et je trouve que ça aussi, ça a un côté dire un peu symbolique. C'est que je n'abîme pas, je ne dérange pas, je suis pas un problème pour cet environnement que j'apprécie, que j'admire et qui me porte. Mais voilà, je joue avec à un moment donné, je passe et puis voilà.
Si la mer devait garder la trace de tous ceux qui sont passés par là, on parlait hier de Vito Dumas, Magellan évidemment, tous ces grands hommes qui ont ouvert la voie en quelque sorte, est-ce que vous pensez à eux? Vous qui êtes si seul sur ce bateau, est-ce que vous êtes un peu avec eux?
Oui, je pense que c'est un des grands bonheurs de la navigation et des marins. C'est effectivement, je vois pas tellement d'autres sports d'ailleurs qui puissent... rivaliser peut-être un tout petit peu les alpinistes, mais c'est moins sur le long terme. Des gens qui ont traversé les océans à la voile, il y en a depuis 2000 ans. Et donc, il y a une espèce de chaîne humaine, d'esprit, de marin, de sens marin, qui s'est construite petit à petit. On peut pas passer le Cap Horn sans penser qu'on a sous les pieds des dizaines, peut-être des centaines de bateaux, de gens qui n'ont pas réussi à passer le Cap Horn. On peut pas être dans la Lysée, qui au contraire est un vent extrêmement favorable et chaud et doux, et sans imaginer, Christophe Colomb se faire emporter par ces vents pour aller découvrir l'Amérique. Et en course ou pas en course, quand on voit une île commencer à monter à l'horizon, on est Christophe Colomb, on est pareil, on a les mêmes émotions. C'est-à-dire que on est sur la mer là où on voulait être et on trouve, on arrive au but où on voulait arriver. Et c'est toujours une quête pour les marins. Même si aujourd'hui, encore une fois, on a des instruments de navigation, de mesure, etc. Le moment où la côte qu'on a désirée, dont on a rêvé, commence à monter sur l'horizon, hein, puisqu'avec la rotondité de la Terre, forcément, on commence par voir le haut. Et ça a toujours cette magie. Et toujours, oui, on pense aux marins... qui sont arrivés avant vous et aux difficultés qui ont été les mêmes pour eux que pour vous, même si encore une fois c'est pas avec les mêmes instruments, mais ça change rien, une tempête c'est une tempête, un calme plat c'est un calme plat.
Mais est-ce que c'est la même solitude?
Alors je pense que oui. On a beaucoup parlé autour du fait que bien sûr aujourd'hui on a des téléphones satellites à bord, on peut appeler, on peut mais ça n'enlève rien au fait qu'à un moment donné, vous êtes toute seule avec que de l'eau et du ciel, bien sûr, tout autour de vous. Et que ça, c'est de toute façon une forme de solitude. Et que, évidemment, je peux passer un coup de téléphone si j'ai un problème technique ou si, je sais pas, appeler un médecin, si je me suis blessée ou quoi. Mais il n'empêche que je vais devoir quand même affronter mes angoisses et vivre aussi des moments de bonheur, parce que heureusement il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'on navigue. Et là, je vais être toute seule à le faire. On peut avoir encore une fois tous les moyens de communication du monde, il y a un moment, on est loin.
La solitude reste la voix qui se perd dans le vide, elle reste la main amie qui manque à la manœuvre, elle reste la connivence de pensée qui fait défaut quand de difficiles décisions de route sont à prendre, écrivez-vous.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai aussi pas mal navigué en équipage et je vois bien la différence. L'équipage peut avoir des difficultés aussi parce que l'harmonie dans un équipage n'est pas toujours facile à trouver. Mais c'est vrai que dans un équipage, bah, y a toutes ces connivences au moment du changement de quart, au moment d'une manœuvre, parce que c'est vrai que quand on tire et que ça vient pas, on est contente qu'il y en ait un autre qui vienne et qui tire avec vous. Parce que quand il y a une option météorologique à prendre, qui est un petit peu compliquée, ou ça se discute, on aimerait bien pouvoir discuter justement. Puis on peut pas discuter. Donc la pression, évidemment, est beaucoup plus forte. Je pense que la grande difficulté du solitaire, en fait, c'est plus une difficulté finalement mentale que physique. Physiquement, on arrive à trouver des solutions. Moi, j'ai été la première à faire poser, par exemple, une quille pivotante sur un grand bateau pour résoudre un problème technique, physique, de capacité musculaire. Donc, on trouve des solutions. Par contre, l'inquiétude sur est-ce que je fais le bon choix de route, Ben ça, il n'y a pas de solution. Je l'aurai toujours, cette inquiétude, quand je suis toute seule. Donc c'est ça qu'il faut apprendre. Et c'est là, évidemment, que la confiance en soi va jouer un rôle central. C'est-à-dire que à un moment donné, je me pense capable de. Et donc, je suis capable de. Et je découvre que je sais faire plein de choses que je croyais ne pas savoir faire. C'est, je vais prendre un petit exemple... Évidemment, parce que j'étais une fille, même un peu bricoleuse, je me suis jamais beaucoup intéressée au moteur. J'ai pas démonté ma mobylette à 12 ans. N'empêche que sur les bateaux, il y a des groupes électrogènes pour fournir de l'énergie. Et que quand il tombe en panne, eh ben, il est en panne. Et je suis toute seule sur le bateau. Et donc, ben, il faut bien que je me débrouille. Parce qu'il faut que ça marche. Parce qu'il faut que je le répare. J'ai pas le choix. Parce que j'ai besoin d'un pilote automatique. Parce que j'ai besoin de sinon la course est finie, quoi. Je pourrais toujours arriver quelque part, mais il y a plus de course. Et donc, eh ben, je me débrouille. Et je me rends compte que, parce que j'ai un peu appris avant aussi, parce que, voilà, j'y arrive finalement. C'est peut-être un peu plus compliqué que si j'avais de l'expérience, mais voilà. Et je crois qu'il y a beaucoup de moments comme ça et qui font aussi que, la solitude, c'est une extraordinaire école aussi, mais c'est aussi tout simplement une école de confiance en soi, quoi. C'est qu'on fait parce qu'il faut faire.
C'est un extraordinaire luxe quand elle est choisie, cette solitude.
Évidemment. J'ai souvenir d'être assez régulièrement intervenue dans des prisons où j'ai fait des rencontres, des conférences, on va appeler ça comme ça, en particulier dans des prisons pour femmes. Et je me souviens très bien de ces discussions où les filles me disaient « Au fond, dans ton bateau, t'es enfermée comme nous. » C'est-à-dire qu'elles imaginaient le bateau, le fait que je puisse pas descendre, évidemment, comme une forme de prison. Alors, c'était difficile de leur dire comme ça, de but en blanc, que non, c'était pas du tout la même chose. Mais de fait, moi, j'ai choisi ça, j'ai décidé ça. Je suis pas l'Érythréen qui traîne en ville et à qui personne n'adresse la parole. Je suis pas la petite vieille qui est dans sa maison de retraite et que personne ne vient voir. Je suis pas la prisonnière qui finalement ne voit que les autres gens de la cellule. J'ai choisi de passer des moments seuls. C'est pas toute ma vie non plus. Je suis pas abandonnée sur une île déserte. J'ai un moment de solitude. Et donc ça fait complètement la différence, bien sûr. Et du coup, ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir vivre à fond ce moment de solitude et apprendre tout ce que la solitude peut vous apprendre et vivre et découvrir tout ce que la solitude peut vous faire découvrir de vous-même, des autres. Parce que, par exemple, c'est pas pareil d'aller voir les étoiles avec une bande de copains et de regarder les étoiles tous ensemble ou d'être allongé sur le pont de son bateau et de voir d'être toute seule et de voir les étoiles. C'est pas le même sentiment, c'est pas la même émotion, c'est pas. Il y a quelque chose de plus fondamental. Parce que tout d'un coup, on est réduit à ce qu'on est, un être humain. Et ça vous rapproche de cette espèce de forme d'humanité, comment dire ça, d'humanité primaire, profonde, première, je sais pas très bien quel mot employer, qui est la nôtre. Et qu'on oublie, évidemment, quand on est avec les autres. Parce qu'on ne se pose pas ces questions, parce qu'on est entraîné dans la vie de tous les jours, dans les échanges, dans, qui sont très bien aussi, que j'adore. Hein, je vais pas, mais c'est vrai que la solitude, et tout le monde peut le faire. On n'est pas obligé de faire le tour du monde à la voile. On peut aussi aller se promener avec ses deux jambes, ou aller se balader, je ne sais pas moi, aller passer 3 jours en montagne, aller passer... on peut faire des choses simples et moi, j'ai tendance à dire aux gens, faites-le, essayez, vous verrez, c'est différent. C'est différent, c'est une autre expérience de la vie et je trouve que c'est une expérience fondamentale parce que je pense que nous sommes fondamentalement seuls, nous naissons seuls, nous mourrons seuls, dans notre tête, dans notre corps. Après, entre les deux, il y a évidemment tout ce moment, au contraire, de collectivité, de convivialité qui nous porte. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, c'est bien de... C'est aussi une façon de se rapprocher de soi-même. Non pas de trouver ses limites, parce que c'est pareil, je pense que... Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, les limites. Je ne sais pas s'il y en a. Il y a des expériences différentes. Donc ça permet de se mettre en situation de faire des expériences différentes. Et ça, après, ça ne vous quitte plus quand vous avez vécu ça à un moment donné de votre vie. Bah, c'est une forme de socle. sur lequel vous pouvez continuer après à vous bâtir, parce que vous avez expérimenté ça. C'est quelque chose que j'ai par exemple très bien ressenti à la fin de mon premier tour du monde en solitaire. Tout d'un coup, j'ai eu ce sentiment. Je me suis dit, voilà, ce que j'ai vécu toute seule, ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris de moi, de mon rapport aux autres, de la nature, c'est quelque chose, voilà, qui maintenant fait complètement partie de moi. Et à partir de là, ben, je vais bâtir d'autres choses. Et voilà, la solitude donne ça.
En 90-91, vous êtes la première femme à faire le tour du monde en solitaire, Isabelle Autissier. Est-ce que vous pensez qu'à certains égards, naviguer en solitaire, pour une femme, c'est plus simple que de naviguer en équipage?
Alors, j'aime bien me livrer au petit jeu suivant. Si vous me citez des navigatrices, vous n'allez me citer que des solitaires. Vous allez me parler de Florence Artaud, d'Hélène MacArthur, de Catherine Chabot, de moi-même. Voilà. C'est assez intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui naviguent en équipage, mais ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué de naviguer en équipage, parce que tout simplement, en général, les messieurs ne veulent pas de vous, parce qu'ils considèrent que vous allez porter la zizanie au sein du groupe, que vous êtes moins costaud, que vous allez pleurnicher parce que vous avez bobo, que ceci, que cela. Et donc, assez spontanément, assez naturellement, moi j'avais envie de naviguer toute seule, mais je vois bien aussi chez les autres, assez naturellement, quand vous voulez aller loin et faire des grandes compétitions, c'est finalement plus facile, oui, de décider de le faire en solitaire, si on aime ça, bien sûr. Hein. Après, il n'y a plus de problème. Hein. Surtout quand on a eu des résultats et que ça s'est bien passé. Après, vous pouvez faire partie d'un équipage et il n'y a plus de... Voilà, on considère que vous pouvez rentrer dans le jeu. Mais c'est vrai qu'avant, c'est compliqué.
En solitaire, pour les femmes, les notes de téléphone, vous la faites, celle-là, la blague?
Oui, alors là, je peux vous garantir que les notes de téléphone des garçons sont 10 fois supérieures à celles des filles. Pourquoi? Sans doute parce que les filles qui naviguent en solitaire ont un état d'esprit, d'autonomie, qui leur a été nécessaire, sans doute plus grand que les garçons. Et c'est drôle, c'est les fameux clichés, hein, c'est le fameux, qui va garder les enfants, hein, qu'est-ce que ça fait pour une femme? Alors ça, c'est la question que j'ai entendue, mais je ne sais pas combien de centaines de fois. Et la première fois qu'on me l'a posée, j'étais un tout petit peu interloquée et je me disais, mais d'abord, je ne peux pas dire ce que ça fait pour une femme, puisque ce serait essayer de comparer à ce que c'est pour un garçon, ce que je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est ce que ça me fait à moi. Et puis, je suis bien persuadée que les hommes aussi, c'est des grands défis, c'est des grandes histoires. Et partir faire le tour du monde en solitaire, je pense que qu'on soit un homme ou une femme, c'est de toute façon... un moment de vie très fort. C'est vrai que j'ai toujours pris ça un peu avec une pointe d'amusement, en fait. Et j'allais dire un peu méchamment que je les vois venir. Je les vois venir, ces questions-là. Et maintenant, ça m'arrive d'être un peu provoque, même, par rapport à tout ça. Parce qu'au fond, honnêtement, je pense que la complexité de la navigation à voile en solitaire, c'est une complexité... technologique, technique. C'est une complexité, voilà, de ce dont je parlais tout à l'heure, du choix de la route, etc. Et puis, c'est une ténacité mentale, ça c'est sûr. Et que, honnêtement, je vois vraiment pas ce qui différencie les hommes des femmes sur ces sujets-là. Moi, j'ai un métier d'ingénieur, donc voilà, j'ai fait des études d'ingénieur, je les ai réussies comme les garçons, je suis capable de vous parler de joules, de mètres cubes, de tout ce qu'on veut, comme les garçons, je suis capable de penser des outils techniques comme les garçons, je suis capable de faire une route météorologique comme les garçons, et évidemment, pour avoir réussi ces courses-là, c'est parce que j'ai une certaine ténacité mentale. Voilà. Après, le reste, je sais pas ce qui fait la différence. Je veux bien qu'il y en ait une. Je veux bien qu'on n'ait pas la même sensibilité, pas la même façon de prendre les problèmes. Mais honnêtement, sur le résultat final, je vois pas.
Et les sens, Isabelle Autissier, comment ils fonctionnent, les sens, quand on n'a plus d'autres sens que les points cardinaux et plus d'autres horaires que celui des cartes météo?
Alors justement, c'est une des premières choses que j'ai découvert, on parlait hier de mes premières navigations, c'est ce côté extrêmement sensuel de la mer. D'abord, ça bouge. Dans la vie normale, on ne bouge pas. Enfin, on ne bouge pas. Si, quand on marche, bien sûr, au concours, mais là, c'est le milieu qui bouge. Et c'est très surprenant. D'ailleurs, ça donne le mal de mer, souvent. Donc, c'est un sens qui n'est pas tellement sollicité d'habitude. En plus, ça fait du bruit. Ça fait un bruit particulier. La mer sur la coque, la mer dans le vent dans les voiles, les sonorités à l'intérieur du bateau qui résonnent d'une certaine manière. Voilà, donc c'est nouveau. Ça a une odeur, bien sûr. Il y a l'odeur du bateau, mais il y a aussi l'odeur de la mer, quelque part. Ça sent aussi quelque chose. La mer, elle vous sollicite pas seulement intellectuellement, elle vous sollicite aussi avec tous vos sens. On parlait hier de l'observation de la couleur de l'eau, du fait que de nuit, si vous êtes au large de la côte africaine, ça sent le marigot, l'eucalyptus. Quand vous arrivez dans d'autres endroits, ça va au contraire sentir plus le bitume et le béton. Et quand vous êtes près des Açores, ça sent les fleurs. Et voilà. Et quand vous retournez en mer, ça sent l'iode, ça sent parfois les algues, ça sent voilà. Et je pense que ça participe au fait, quand je dis j'entre en mer, que c'est mon corps tout entier. C'est pas juste mon cerveau, c'est aussi mes sens, et c'est chaque partie de mon corps. Et par exemple, je barre autant avec mes fesses qu'avec ma main, parce que sentir les mouvements du bateau dans les fesses quand je suis assise pour barrer, c'est très important. Les aveugles, par exemple, barrent très bien, parce qu'ils sentent le vent sur leur visage, et ils sentent le bateau dans les fesses. Donc voilà, donc je crois que ça, c'est bien, de vivre pleinement, finalement, de vivre, je ne sais pas si c'est à 100%, mais en tout cas de s'en rapprocher.
Est-ce qu'il vous arrive, Isabelle Autissier, d'écouter de la musique en mer pour accompagner votre solitude ?
Alors, j'écoute pas mal de choses. En fait, dès le premier tour du monde, je me suis fait une sorte de règle pour les quelques livres, même si on lit pas beaucoup, et pour la musique, de n'emmener que ce que mes proches m'offrent pour que je le lise ou que je l'écoute en mer. Ce qui fait que d'abord c'est très éclectique et que je découvre plein de choses, mais que aussi, voilà, à chaque fois que je mettais un CD ou que j'ouvrais quelques pages d'un livre, ben la personne était là quelque part à côté de moi et il y avait une belle transmission à travers la musique ou à travers l'écriture.
Et est-ce que vous faites en sorte que la musique soit raccord avec le temps, par exemple, avec votre vitesse ?
Je le fais pas exprès, mais j'ai remarqué. D'abord, j'ai remarqué une chose, c'est que en solitaire, j'avais spontanément plus tendance à écouter de la voix humaine, que ce soit de l'opéra, de la chanson française ou peu importe. Mais voilà, j'aimais bien que entre guillemets quelqu'un me parle. Et puis que c'est vrai que là aussi assez spontanément, il y a des musiques qui me semblent s'accorder à des états de mer. Et que si c'est très calme, bah, les suites pour violoncelle de Bach, ça va très bien. C'est magnifique dans cette ambiance un peu mystérieuse. S'il fait pas beau et que j'ai besoin de me remonter le moral, une petite salsa, c'est parfait. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas délibéré, ça s'impose.
Il vous arrive, Isabelle Autissier, de barrer plusieurs heures hypnotiques, d'écouter le bateau respirer dans la mer et d'avoir le sentiment d'accorder votre souffle au sien. Il arrive que le temps s'étire, que rien ne vienne contrecarrer la monotonie du parcours, une sorte de retraite avant que ne commence la liturgie du Grand Sud. Demain, la tempête. À demain, Isabelle Autissier.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Julie Gacon avec Isabelle Autissier. À voix nue, réalisation Jean-Christophe Francis, prise de son Yves Lehorse, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.